Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. Une nuit italienne. Nous poursuivons cette nuit notre tour d'Europe, non exhaustif, loin de là, via les radios publiques nationales. Ainsi, nous avons passé une nuit belge, commencé par un duplex avec la RTBF à Bruxelles, une nuit anglaise avec la BBC à Londres, une nuit suédoise avec Radio Sverige à Stockholm, une nuit espagnole avec la RNE à Madrid, et cette nuit italienne, c'est bien entendu avec une personnalité de la RAI que nous allons passer ce début de programme entièrement transalpin, mais en version française. Bonsoir Ilaria Sottis.
Bonsoir Philippe Garbi, merci pour nous avoir invités.
Ah ben, merci à vous, alors on peut raisonnablement penser que vous êtes à Rome.
Oui, on est à Rome. Il y a les étoiles, on n'en voit pas beaucoup parce que, hélas, il y a beaucoup de pollution lumineuse, on dit comme ça aussi.
On dit ça, oui, mais c'est normal, c'est en ville. En tout cas, merci d'être avec nous et merci d'avoir bien voulu jouer le jeu qui consiste tout simplement donc à nous instruire, à raconter aux auditeurs français, aux auditeurs de France Culture, en l'occurrence, ce qu'est votre radio. Jouer le jeu, c'est un jeu très sérieux parce qu'il va être documenté, illustré par de nombreux extraits d'émissions de la RAI que vous nous avez choisi. Alors, la RAI, on va faire un petit peu Ilaria Sottis d'histoire, si vous voulez bien. La RAI existe depuis quand? Quels étaient ses ancêtres? Voilà, vous voyez un petit peu ce que je vous demandais.
Alors, la RAI Radio est née en 1924 avec, en fait, un échec. Le premier, il y a eu un échec très, très sérieux parce que Mussolini voulait que on transmettait un discours en direct de celui qui est maintenant le théâtre de l'Opéra de Rome. C'était le théâtre Costanzi. Et en fait, ça a failli, ça n'a pas marché. Il n'était pas très content ce jour-là, mais après quelques mois, en octobre 1924, la première émission de radiophonique de Piazzale delle Muse, c'est une place qui est à Rome, et là, une grande émotion, et la radio RAI a commencé sa longue marche, une marche qui dans juste 5 ans va être fêtée, parce qu'il y aura, on fêtera le centenaire de cette longue marche. Et ce qui est très intéressant, et moi je dois vous dire que je vous remercie pour avoir fait cette invitation, parce que ce qui est très intéressant, c'est d'avoir pu lire l'histoire de l'Italie, de ces presque 100 ans italiens, à travers la radio. Et effectivement, ça a été toujours un jeu, vous parlez de jeu, Philippe, entre qui représente et qui facilite les changements. Ça, c'est très intéressant. Je trouve que ça, c'est vraiment une question spécifique de la radio. Ça n'a pas marché de la même façon avec la télévision. La télévision en Italie a débuté en 1954, donc plusieurs années après. Et surtout, la télévision a raté toute une partie de l'histoire italienne fondamentale. 1954, ça veut dire le fascisme, ça veut dire la Seconde Guerre mondiale et ça veut dire surtout la sortie de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, mais ça, c'est un peu vrai pour tous les pays d'Europe. La télévision est arrivée assez tardivement, mais plus tardivement peut-être en Italie.
Oui, et surtout, ça a été une télévision qui, pour les premiers 10 ans, essayait de reproduire ce que la radio avait déjà fait, ce que la radio avait appris à faire. Et donc, c'était un peu toujours la télévision qui poursuivait la radio et qui piquait les voix, les gens. Dès que quelqu'un fonctionnait bien à la radio, alors hop, il passait à la télévision. Et on avait tout le temps la sensation d'avoir une télé qui cherche à jouer comme la radio, mais en plus des images. Il y a des images de la radio italienne qui m'ont beaucoup touchée pour préparer cette conversation avec vous. Voir combien de fois les familles italiennes, les gens dans les cafés, dans les bars, étaient assis et regardaient la radio. Ils étaient là et ils regardaient la radio. C'était pas seulement quelque chose qui faisait entendre. Ça, je suppose que c'est semblable dans les autres pays. Mais l'Italie, vous savez, l'Italie a une structure sociale qui est beaucoup basée sur la famille et sur les petits cercles. Et la radio, ça a été vraiment un constructeur de petits cercles.
Oui, et puis le poste de radio est massif. Donc on le regarde, il tient beaucoup de place dans une pièce.
Oui.
On est d'accord, l'un et l'autre, nous sommes d'accord, tout le monde est d'accord pour dire que la radio c'est beaucoup mieux que la télévision. Vous n'allez pas dire le contraire ?
Non, je ne vais pas dire le contraire. Moi, j'ai commencé à travailler à la RAI et à la télévision. Ah. Et quand je suis arrivée à la radio, j'ai dit « casa ». C'est-à-dire, ça c'est mon truc, c'est mon lieu et c'est encore comme ça. Mais je trouve qu'il ne faut pas exclure. Et donc, regarder un peu là et un peu ici, c'est toujours bien. Et je trouve surtout que la télévision, elle a beaucoup plus besoin de la radio que la radio de la télévision. De ça, j'en suis vraiment sûre.
Alors, combien de chaînes de radio peuvent se prétendre chaînes de la RAI ?
Alors, on a 3 chaînes de radio. Radio 1, où je travaille, qui est une sorte de, disons, de France Info, journal et émission de l'information, mais musique aussi. Et après, on a Radio 2, qui est la chaîne où on a des journaux radio, mais on a aussi des émissions plus légères, disons, beaucoup de musique. Radio 3, c'est-à-dire un peu comme France Culture. Et après, on a des chaînes web qui commencent à bien marcher. Et ce sont intéressantes. Les principales 3 chaînes, c'est-à-dire Radio 1, Radio 2 et Radio 3, font un bon résultat, tous les 3. Si vous voulez, Philippe, je peux vous lire les chiffres des auditeurs. Peut-être c'est intéressant. Radio 1, en ce moment, on a, disons, 3 800 000 auditeurs, plus ou moins. Radio 2, 2 600 000 et Radio 3, 1 300 000. Et donc, ça veut dire qu'une bonne partie de l'audience italienne écoute les chaînes de la radio RAI et donc se fie au service public.
Bien sûr. Et vous travaillez, donc, vous nous l'avez dit, Ilaria Sotis, sur la première Radio Uno. C'est une émission quotidienne ?
C'est une émission quotidienne qui s'appelle Viva Voce, c'est-à-dire d'une part Vive la Voix et de l'autre part c'est vous savez, la fonction qu'on a sur le téléphone pour faire entendre à tout le monde une conversation. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire tous les jours parce que Radio Uno, ce qu'il y a de très particulier, c'est les échanges avec les auditeurs. Les auditeurs interviennent très très souvent dans les émissions, nous aident, à nous journalistes, à comprendre où le débat doit aller, quelles sont les questions centrales qui n'arrivent pas à être mises suffisamment à point. Et aussi, ça facilite beaucoup la relation entre les citoyens et, disons, la politique ou les politiciens. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose que la radio a inventé depuis beaucoup de temps. Après, peut-être on va entendre le premier exemple, le premier tentative qui a été fait de la radio sur ça. C'est une émission qui part à 15h30 et termine à 17h. Comme vous savez très bien, apparemment, ce n'est pas un horaire central parce que la radio, c'est plus important au début de la journée et à la fin de journée. Mais à cause peut-être de la politique en Italie qui est toujours très vivace, très très vive, et donc les nouvelles n'arrêtent jamais, de quelque façon, même les nouvelles italiennes, et donc 15h30, 17 est devenu un horaire très très important, et on est bien content de ça.
Je suis sûr que les auditeurs des Nuits de France Culture iront, parce que ça doit être facile de trouver sur votre site Ilaria Sotis, pouvoir vous entendre l'après-midi, mais enfin vite ils reviendront sur France Culture, bien entendu.
Alors, absolument, ils peuvent faire les deux choses à la fois.
Alors grâce à vous, on va entendre parler italien grâce aux extraits d'émissions très anciennes ou plus récentes. Je disais que la nuit italienne allait être en version française, c'est évident, mais elle va être en tout cas 100% italienne. Je vais vous donner la liste des émissions que l'on va pouvoir entendre au cours de cette nuit. Une tribune de Paris qui donnait des conseils aux Français partant en vacances et en vacances en Italie. Ça date de 1954. Alors Raymond Thévenin avait réuni pour cette tribune de Paris François Giroud, Cécile Saint-Laurent, Félix Félicien Marceau, Michel Déon et Max Favalelli. On était en 1954 sur la chaîne parisienne. Et puis, on fera un tour du monde autour d'une table. Images sonores d'Italie, une émission de 1949 sur la chaîne nationale. Donc là, beaucoup de sons, de beaucoup de musique. On écoutera ensuite un carnet romain, Bernardo Bertolucci, au micro de Roger Pilaudin. C'était en 1972, en septembre 72. Bertolucci qui est mort l'hiver dernier. Suivra une conférence donnée par Jean d'Ormesson en 1970 sur 3 siècles de promenade dans Rome, le 5e siècle, le Moyen-Âge, le 17e siècle aussi, et évidemment le 19e avec son château brillant bien aimé. On aura rendez-vous ensuite avec Alexandre Grandazzi, qui est un professeur à la Sorbonne en histoire latine, enfin littérature latine et en histoire de Rome, et il viendra de nous parler de son livre formidable, c'est Urbs, c'est un livre évidemment consacré à l'histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste, publié chez Perrin. Et puis un petit peu de, même beaucoup de nourriture, de gastronomie, grâce à une émission de René Elkaïm Bollinger, de Bouche à Oreille, Balade en Émilie, puis Une vie, une œuvre, Luigi Pirandello, L'étrange étranger, par Florence Marguier, et enfin Une matinée des autres, consacrée aux femmes de Sardaigne. Tous les sons que l'on va pouvoir entendre là, qui sont assez courts, il y en a un qui est très très court et que vous nous avez adressé vraiment à la dernière seconde. Je ne comprends pas bien pourquoi, mais on va l'écouter. Alors il faut écouter très attentivement, parce que ça doit durer 5-6 secondes. C'est tout.
Ouais,
c'est tout, mais c'est le son principal de la raille, avez-vous dit.
C'est le son. C'est vraiment le son. C'est le son qui du début des transmissions, a été le son de la radio raille. Naturellement, c'est un petit oiseau. Et alors, ce que vous devez savoir, Philippe et toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, c'est que la radio est vraiment toujours à l'avance des temps. Et ça a été... Aujourd'hui, c'est un peu le son et l'image a été reprise par Twitter, non ? C'est le petit oiseau de Twitter. Mm-hmm. Et c'est ce que la radio fait, et c'est ce que, par exemple, Twitter, mais aussi les autres social networks font tout le temps. C'est-à-dire de faire arriver le monde où vous êtes. Mettre en connexion le monde, tout ce qui se passe dans le monde, avec la personne, la simple personne, la personne singulière. Et ça, c'est vraiment le son. Moi, je peux vous dire que je l'ai sur mon portable.
Et vous êtes sûr que c'est un oiseau italien ? Dit-il cuicui, ou comment dit-on cuicui en italien ?
Cinguettio. Cinguettio. C'est un beau mot. Hein.
Oui. Il y a aussi le film, on pense au film de Pasolini, Petit et Grands Oiseaux.
Ah, bravo, ça c'est une belle connexion culturelle.
Avec Toto.
Ouais. Bon. Et oui, ça c'est le début. Forcément, ça c'est le début de notre conversation.
Vous nous avez parlé de Mussolini, on va entendre alors un extrait assez bref. Vous nous l'expliquerez par la suite, Ilaria Sottis.
Attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, Sua Eccellenza il Cavaliere, maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio.
Alors, on n'entend pas Mussolini, et pour cause. Expliquez-nous,
alors, ça,
traduisez.
C'est, avant tout, je veux vous dire que ça, c'est la voix de Tita Arista. Et c'était vraiment quelqu'un de très, très important pour les Italiens en ce moment, parce que c'était la personne qui communiquait avec les Italiens à travers la radio. Et on est le 25 juillet 1943, et Arista annonce les démissions de Mussolini. Démission que le roi a acceptée. Et il a nommé à sa place le général Badoglio. De ce moment, l'Italie, face à la Deuxième Guerre mondiale, évidemment change, mais il faudra du temps pour que tous ces changements arrivent. Et ça, c'est une grande question que la radio s'est posée pendant beaucoup de temps. Mussolini, comme vous savez, ira à Salò pour la République de de Salò et l'Italie lentement va être libérée. Et c'est important que ce soit Arista qui a donné cette nouvelle aux Italiens.
Où l'on revient à Pasolini, cité tout à l'heure pour les petits oiseaux et grands oiseaux. On a en France une vision enfin, de l'histoire de l'Italie du XXe siècle, par le cinéma, bien entendu.
Par le cinéma. Bon, moi, j'ai fait des études françaises, et donc j'ai souvent étudié l'histoire italienne à travers la culture française, les études françaises que j'ai fait. Mais en fait, l'Italie, je crois qu'en France, c'est toujours très suivi avec attention. Parce que c'est vrai qu'on est un pays très proche l'un de l'autre, c'est vrai qu'il y a juste les Alpes à nous diviser, mais les Alpes sont là et donc c'est une histoire un peu compliquée, surtout celle du XXe siècle, comme vous dites, une histoire que même nous, Italiens, c'est difficile à comprendre jusqu'au bout. Et le cinéma, la culture, la musique, vous savez, la musique a beaucoup fait. Et là, encore une fois, l'importance de la radio, parce que la radio a toujours pu transmettre la musique. Tout ça a aidé à faire une réflexion. Une réflexion qui n'est pas terminée, évidemment.
Et puis, il y a le cinéma, il y a la littérature, mais aussi, évidemment, les familles, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents qui racontent et ils écoutaient la radio. Peut-être étaient-ils vos aïeux devant le gros poste de radio pour écouter cet extrait, enfin, en tout cas, l'émission intégrale, mais dont on va entendre un extrait.
Il faut croire, accepter totalement, sincèrement, che le questioni di governo e di Stato si risolvono col voto e che questo voto fa legge per tutti, salvi naturalmente i principi supremi della morale. In ciò consiste il regime di libertà. Da questa consapevolezza e da questo costume dipende se la Repubblica, che è il più perfetto ma anche il più difficile sistema di autogoverno, nascerà vitale, robusta. Sarà questo il viatico per il lungo cammino della ricostruzione su cui vogliamo e dobbiamo marciare.
La question va être monarchie ou république. On est le 2 juin 1946.
Exactement, 2 juin 1946, Alcide De Gasperi, chef du gouvernement, explique aux Italiens, évidemment à travers la radio, quel est l'enjeu. Quel est l'enjeu à laquelle les Italiens sont appelés, c'est-à-dire voter pour la République ou voter pour la monarchie. La République sera choisie par 54% des Italiens et c'est très important ce que Alcide De Gasperi dit. C'est-à-dire, vous êtes en train de choisir pour la liberté, et choisir pour la liberté, ça veut dire faire un choix politique, république ou monarchie, en sachant que la république, c'est la démocratie plus parfaite possible, mais c'est la plus difficile. Vous devez penser, Philippe, que ça a été dit à des Italiens qui ont eu le fascisme et la guerre, des Italiens qui ne savaient pas ce que c'était la liberté. Et donc ce message qui arrive à travers les postes radio, qui arrive dans les maisons, qui arrive
dans toutes les familles,
dans toutes les familles, est très très fort, très très fort.
On vous en a parlé, vous, dans votre famille?
Oui, évidemment, je me rappelle ma grand-mère qui avait appris de ce choix et qui avait pu voter pour la première fois, parce que vous savez que le vote aux femmes est arrivé en cette occasion.
Et donc, en France aussi, hein.
Elle se rappelait très bien de ce moment, parce que voilà, ça c'est important, je trouve. La radio aide à se rappeler des moments, pas seulement des longues histoires ou des longues pages, mais des moments. Et après, si on a la capacité de mettre ensemble ces moments, c'est un peu ce qu'on est en train de faire nous, hein, aujourd'hui avec cette nuit avec vous. Et c'est ça, des moments. Et à la fin, c'est une page de l'histoire.
Et dans vos émissions, Ilaria Sottis sur la Uno, Rai Uno. Est-ce que vous passez des archives? Ou c'est vraiment l'actualité et on ne fait appel aucunement à l'archive?
On passe des sons, mais les archives seulement quand ça nous aide à comprendre l'actualité. On est vraiment sur l'actualité du jour, la une du jour. C'est pour ça que c'est un peu fatigant, je dois vous dire la vérité, parce qu'on prépare l'émission le matin et on cherche les gens le matin, on fait des interviews le matin et pour être à l'antenne à 15h30. Et donc, mais on est bien content parce qu'on est en train de, comme je vous disais, d'inventer un peu un nouveau horaire. Et ça raconte ça aussi un peu les changements des habitudes, en ce cas les changements des politiciens, parce qu'on est très sur la politique.
Alors je pense que vous avez parlé d'Alcide de Gasperi, on l'a entendu, on peut le réentendre sur l'Europe. Je suis sûr que c'est une archive qui peut donner à discussion enfin, aujourd'hui.
Eh oui, ça c'est des paroles, des mots auxquels vraiment je tiens beaucoup. Quand on a choisi un peu les morceaux, les sons à transmettre cette nuit avec vous, Philippe, et laisser que je remercie Mimi Mikoch qui a fait que tout ça soit possible. On a dit
aussi.
Ça c'était vraiment fondamental parce que en vue des élections européennes, entendre les voix de ceux qui ont été les pères de l'Europe, ça nous aide à tout. A tous.
L'ultimo messaggio di Edison che gli ci lasciava era questo: è importante per essere un uomo di Stato americano. Badate voi europei continentali di mettervi d'accordo di creare l'Unione Europea, perché dopo trascinerete l'Inghilterra e anche gli Stati Uniti. Questa mi è stata naturalmente di grande soddisfazione perché abbiamo contribuito in una certa maniera noi italiani in modo particolare a far sentire l'importanza dell'istituzione finale.
Alors, on peut dire que Alcide de Gasperi, pour la France, l'équivalent pour la France, ce serait Jean Monnet, Robert Schuman, Spaak pour la Belgique. C'est un peu
oui,
ce personnage-là. Enfin.
Absolument. Il faut savoir que Alcide de Gasperi, en ce moment, dans ses mots, dit il faut que l'Europe soit d'accord pour créer l'Union européenne.
Et, on est en 52, hein.
On est en 52, vous avez raison, on est en 52. Il revient sur un message du sous-secrétaire d'État des États-Unis, Akeson, qui rappelait cette exhortation qui avait été faite à l'Italie en particulier, mais aux Européens, de créer les États-Unis d'Europe. Et de Gasperi dit, parce que après, l'Angleterre arrivera, et après aussi les États-Unis nous reconnaîtront. Vont nous reconnaître comme une Europe unie. Alors vous comprenez que dire ça en 52, face à l'Italie qui commence un petit peu à se reprendre, c'est très très important, c'est très courageux. Je voudrais utiliser ce mot, moi, c'est très courageux.
Alors ça, donc, on est en 1952 et on va poursuivre avec vous, Ilaria Sottis, cette vision qui n'est pas une vision, qui est une écoute de la RAI, donc puisque nous sommes dans une nuit italienne. L'extrait enfin, de l'émission dont on va pouvoir entendre un extrait s'appelle, alors c'est Sergio Zavoli qui est le producteur. Dites-nous un petit peu de quoi il s'agit.
Alors Sergio Zavoli a été un journaliste extraordinaire, vraiment très à propos de courage, très courageux lui aussi. Il a fait des émissions à la radio et à la télévision sans dire non à aucune des deux parce qu'il aimait très bien, il utilisait très bien les deux disons médiums. Et il a vraiment osé. En particulier, il a fait une émission qui s'appelait La Notte de la Repubblica dans les années, je pense, 70 ou 80. Et c'était une émission qui était allée à regarder tout ce qui ne marchait pas dans la République italienne, tout ce qui était vraiment un peu obscur, la maçonnerie, la mafia. Et c'était là aussi très, très fort comme reportage. Mais il a osé faire quelque chose que moi, je pense que c'est une sorte de première et unique au monde. Je connais personne qui, en 57, a fait un programme sur les bonnes sœurs de clôture, comment on dit, j'ai oublié le nom.
Enfin, qui ne sortent jamais. Quoi,
qui ne sortent jamais. Mmh. Et il les a interviewées. Alors ça, c'était vraiment comprendre la puissance de la radio. C'est-à-dire, la radio arrive là où personne ne peut arriver. Mais pas parce qu'elle est, pas parce qu'elle s'impose, parce qu'elle trouve une façon de faire ça. Alors, à travers la radio, à travers la douceur de quelque façon, mais aussi le fait d'être si direct, on arrive à pouvoir interviewer et écouter la voix d'une sœur qui
cloîtrée.
N'est jamais sortie. Oui, cloîtrée.
Voilà. On l'écoute.
Et entendez le son profond de cette interview.
Vostra Reverenza, posso chiederle qualcosa della loro vita?
Veramente, lei mi chiede qualcosa che mi costa parecchio. Comunque, si crede che con le mie povere parole posso portare un pochino di luce. Lo faccio volentieri.
È stato detto, madre, che voi vivete nel più miserevole degli abbandoni materiali. E io credevo di trovare creature stanche, mortificate, dolenti. O di fronte al contrario, creature di una rara serenità.
Può essere che durante il periodo di quest'ultima guerra ci sia verificato in qualche caso del genere. Noi stessi ricordiamo benissimo quel lontano 25 di settembre del 43 quando ci lasciò il monastero fortemente sinistrato e subito dopo quel doloroso periodo dello sfollamento.
Quali ricordi conserva di quel trasferimento attraverso la città? Quali la colpirono maggiormente?
Gli abiti corti che portavano allora le donne, le macchine, questo movimento, questo traffico insolito.
Che cosa differenzia la vocazione religiosa dalla vocazione monastica?
A differenza dalle suore di vita attiva. Noi non abbiamo mai, in tutto il corso della vita, un momento solo nel quale vediamo i frutti del nostro sacrificio. Ci vuole una grande forza d'animo, molta energia, generosità, per saper perseverare in una vita di spogliamento così assoluto e di sacrificio così totale.
Alors, traduction, s'il vous plaît, Ilaria Sottis.
Alors, Sergio Zavoli pose des questions. Et la première question, c'est, est-ce que je peux vous demander comment est votre vie? Et c'est vraiment la question, si vous réfléchissez sur ça, quiconque, je ne sais pas, vous Philippe, moi, ou les personnes qui en ce moment sont à l'écoute, si jamais elles pouvaient interviewer une sœur cloîtrée, quelle est la première question? Comment est votre vie? Pas quelque chose qui est lointain, non? Et donc ça, c'est, ça rapproche beaucoup. La sœur répond, bah, si vous pensez que ce soit intéressant, oui, je vous réponds. Mais vous savez, c'est très normal ce que nous faisons, notre vie est très normale. Et Sergio Zavoli dit, moi je pensais d'arriver ici, de trouver une vie absolument pauvre, sans rien, et par contre je trouve beaucoup de sérénité. Et la sœur répond, oui, naturellement, nous aussi, nous avons eu des moments difficiles, mais on est bien, on est dans notre vie, on est bien. Mais on a vécu des moments difficiles. Par exemple, en 1943, quand on a dû abandonner notre couvent, parce qu'en 1943, il y avait la guerre, et elles aussi, elles ont dû changer d'endroit, on est sorti et on a été très choqués par les vêtements courts que portaient les femmes. Et on est dans les yeux de cette dame.
Et les bruits des voitures aussi.
Oui. Et vous comprenez comme on rentre dans la tête, dans la vie et dans les yeux de cette femme. Et voilà, ça je trouve que c'est vraiment magnifique. C'est magnifique pour
moi. Et la différence entre la vocation religieuse et la vocation monacale aussi?
Oui, ça aussi c'est important parce qu'évidemment, de toute façon, la RAI radio, on doit penser que c'est un médium qui parle aux auditeurs italiens. Et en Italie, tout ce qui est religion catholique, est très important. Et donc, Sergio Zavoli, justement, pose cette question parce qu'évidemment, les auditeurs italiens, ils se posent la question, quelle est la différence entre la vocation monacale et les autres vocations qui sont à l'intérieur de l'Église. Il faut toujours penser que les auditeurs italiens, surtout à l'époque, c'était vraiment un grand pourcentage d'auditeurs qui se reconnaissaient dans la religion catholique. Et donc là, Zavoli, il a une occasion pour poser cette question. La sœur, elle répond de façon très très humaine, je voudrais dire, plutôt que spirituelle. Elle dit, dans tout le cours de notre vie, on a des moments difficiles, mais il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de force d'âme et beaucoup de courage pour continuer dans ce que nous faisons. Et ça aussi, ça rend cette femme une femme, pas quelqu'un de lointain, pas un fantôme. Et l'interview est toute jouée sur ça, en commençant du son. Parce que le son, là, il faut toujours penser qu'on est en 57. Transmettre un son comme ça, si profond, c'est comme si on voyait hein, les sbarres, comment on dit, ceux qui est à la fenêtre qui empêchent de voir et de rentrer. C'est comme si on voyait qu'ils sont séparés.
À travers les rideaux.
Exactement. C'est comme si on le voyait. Alors c'est pour ça qu'on regarde la radio en Italie, peut-être.
Alors, autre femme dans une autre émission de la RAI, et là on a fait un saut dans le temps de près de 20 ans, on est en 1973, le 14 janvier, dans une émission de variété. On écoute, peut-être que les auditeurs français vont identifier la personne qui parle.
Vedrà che accettando la mia proposta, lei dormirà tra due cuscini.
Insiste, capito?
Sentiste bene, Leopoldo? Chiara allusione al letto matrimoniale a due piazze, pesce.
Io, Rosalia, le procurerò un avvenire modesto ma sicuro.
Federico mio, finalmente.
Rosalia.
Federico.
Con la mia compagnia ti troverai benissimo. Ecco, Rosalia, firma qui. Io ti assicuro la vita. Che fai, tentenni?
Tentenno. E tentenno, tentenno, tentenno. Io tutto capì adesso. Come puoi turlupinare così una povera donna sola e assitata d'amore? La polizza a mia mi vuole fare. Leopoldo, e graffi il cavaliere.
No, 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 fermo, fermo, richiami il gatto. Via.
Ma come, non ti sei assicurato contro i felini?
Allora...
Alors, c'est magnifique. Alors, ça, c'est. Moi, je pense que quelqu'un a reconnu la voix de Monica Vitti. Et on est en 1973. Le show s'appelle Gran Varietà. Et c'était vraiment la représentation de ce qui était en train de se passer en Italie, c'est-à-dire la liberté qui arrivait, l'ironie, la satira, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de expérimentation, de tentatives de créer des nouveaux langages. Alors, Monica Vitti, elle a une voix en italien qui est très particulière, très, très particulière. Et donc, à la radio, ça fonctionnait magnifique. C'était vraiment quelque chose qui tenait collé les gens à l'écoute. Et voilà, c'est un sketch dans lequel elle joue le rôle d'une concierge, qui s'appelle Rosalia, qui est toujours toujours cherche un mari. Et c'est tout joué sur un misunderstanding avec les interlocuteurs de Monica Vitti. Mais c'est vraiment très, très, très rigolo. Je vous
Et le Federico n'est pas du tout Fellini, alors ?
Non.
Non, non, aucun rapport.
Non,
il n'y a pas qu'un...
Aucun rapport. C'est, je crois, quelqu'un qui travaille dans les assurances.
Dans les assurances.
Les assurances, voilà. J'oublie Monique, des mots de temps en temps, je demande pardon à l'audience.
Votre français est parfait, ne vous inquiétez pas, il y a ce tisse. Bon, ça vous dit, c'est 73, c'est la liberté, on est après 68. Et puis, de toute manière, il y a toujours des périodes où on se souvient où on était en apprenant tel ou tel événement et on a l'impression... dans sa vie ou dans la vie de son pays, que bah, ça va changer, qu'il y a quelque chose de dramatique soudain qui arrive. On écoute un extrait de... Alors là, c'est le journal parlé, j'imagine, c'est le 16 mars 1978.
Gentili ascoltatori, siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un commando di terroristi. L'inaudito, ripetiamo, incredibile episodio è avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia. I terroristi avrebbero sparato contro la scorta che accompagnava il presidente democristiano, avrebbero poi caricato a viva forza l'onorevole Moro su una macchina e si sarebbero allontanati facendo perdere le loro tracce. Non sappiamo altro per il momento. Ovviamente nel corso della mattinata collegheremo, altre volte interromperemo le trasmissioni. C'è da aggiungere che la scorta dell'onorevole Moro era composta da cinque agenti, sarebbero tutti morti. A risentirci più tardi.
On a compris.
Oui, je pense que vous avez compris. Alors, le journaliste qui a fait présente ce journal s'appelle Cesare Palandri. C'est un journaliste avec lequel j'ai travaillé quand je suis arrivée ici à Radio Uno Rai. Et vous avez très bien entendu l'émotion de sa voix. Ce qui est important de savoir, c'est qu'avant, on parlait de la liberté. Dans les années 70, en Italie, il y a eu un exploit des radios libres. Les radios sont arrivées, la Radio Rai n'était plus la seule. Mais la Radio Rai a réagi d'une façon en inventant des nouveaux langages, comme on a entendu avec Monica Vitti avant, mais surtout en choisissant vraiment l'information. L'information, parce que c'était des années très, très difficiles, et Radio Rai était toujours là. Peut-être c'est important Philippe, de dire que pas seulement on a évidemment donné cette nouvelle quand c'était vraiment les premières minutes de l'enlèvement de Aldo Moro et de vous savez que les hommes qui étaient avec lui ont été tués, mais on a transmis aussi le premier coup de téléphone des Brigades Rouges qui annonçait l'assassinat de Moro. Et c'était une radio vraiment qui mettait avant tout la nouvelle. Il faut que ceux qui sont à l'écoute peuvent
suivre
savoir
l'actualité, quoi, enfin,
oui,
minute par minute.
Absolument. Et ça, déjà dans les années 70. Donc, c'était assez à l'avance.
Un autre extrait, alors, d'une autre émission. 31-31, comment dit-on 31-31 en...
3131, c'était un numéro de téléphone.
Ah, c'est ça. Mais c'est le titre de l'émission aussi.
Le titre de l'émission, c'était Chiamate Roma 3131. Ça a été une émission de Radio 2, née le 7 janvier 1969. Laissez-moi dire une petite chose personnelle. Moi, je suis très liée à cette émission, parce que moi aussi, je suis née le 7 janvier. Pas 69, mais 66. Mais bon, je suis bien contente que ce soit ça, parce qu'on on fait un peu ce que Chiamate Roma 3131 a inventé, c'est-à-dire l'échange avec, à travers le téléphone, avec les auditeurs. Aujourd'hui, c'est le téléphone, les WhatsApp, Twitter, Facebook et tout le reste. Mais c'était une invention. Et ça, c'est, je tiens aussi beaucoup à cette émission, parce que c'était une émission très, très basée sur la force des femmes qui étaient derrière, surtout derrière. Parce que ça a été les conducteurs, les journalistes qui la présentaient étaient plus souvent des hommes, ont été plus souvent des hommes. C'est terminé en 95 l'émission de ce programme, mais derrière il y avait des têtes de femmes, disons comme ça.
Alors on écoute.
Buongiorno, iniziamo oggi una nuova settimana e affrontiamo un nuovo argomento, la bellezza. Abbiamo qui con noi per discuterne insieme la psicologa analista Silvia Rosselli.
Buongiorno.
Vorrei più che altro che tu parlassi un pochino di questo tema della bellezza, anche perché molto spesso parlando di bellezza subito si pensa delle cose frivole, no? O la moda, o il trucco e via di seguito. Invece noi ne vogliamo parlare seriamente.
Su questo tema, il tema della bellezza, si è scritto moltissimo, si sono versati fiumi di inchiostro dall'antichità fino a oggi. Per esempio i filosofi hanno tentato di definirla, di trovare che cos'era, i poeti di cantarla, per arrivare ai tempi nostri, dove industrie intere, quelle della cosmetica, certo, della moda, no, vivono proprio su questa premessa. Poi c'è la pubblicità che ruota intorno a queste industrie e che tenta...
Allora, 31-31, Ilaria Sottis...
Alors là, ça aussi c'est assez particulier parce que Anna Vinci, qui a été une des personnes, oui, la productrice, elle dit bon, on va parler de la beauté. Apparemment, c'est très très superficiel parler de la beauté, mais elles avaient une façon de parler des thèmes, des arguments qui étaient particulière, qui était pas banale, disons, jamais banale. Et ça a été encore plus important du moment que elle croisait les personnes qui étaient interviewées avec les gens. Et donc, à travers un thème apparemment populaire, comme ça, non, pas trop difficile, on peut le dire, Philippe, si on décide de faire une émission sur la beauté, ben, c'est pas une des plus compliquées qu'on va organiser. Mais... de cette façon, ça permettait de faire une rencontre, une réelle rencontre, de raccourcir les distances. Voilà, de raccourcir les distances.
Alors, on a entendu tout à l'heure l'émotion du journaliste annonçant l'enlèvement d'Aldo Moro. On va écouter un autre extrait. Et là, on est en juillet 1992.
Ecco, si giunge in questo momento l'agenzia. Secondo le prime notizie, sarebbe rimasto ferito Borsellino, Paolo Borsellino, nella violenta esplosione di un'automobile imbottita di tritolo. Rimaste coinvolte l'autovettura del magistrato e le due blindate della scorta.
Allora?
Andrea Vianello, un grand journaliste radio, télévision, il a été aussi directeur de la troisième chaîne de la télévision de la RAI, annonce ce qui a été l'attentat de Via D'Amelio. On est en juillet 92, il faut se rappeler qu'en mai 92, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo et les hommes qui étaient avec eux ont été fait sauter en l'air sur l'autoroute qui sépare l'aéroport de Palerme jusqu'à Palerme. On est vraiment dans les années plus difficiles difficile pour le contrat à la mafia. André Vianello, il a beaucoup travaillé sur la mafia, il connaissait Paolo Borsellino et évidemment on entend sa voix. Alors ça c'est quelque chose que peut-être on devrait se poser la question, mais c'est juste que les journalistes laissent arriver les émotions. Cesare Palandri avant, André Vianello maintenant, et ils l'ont fait, et ça aussi je crois que c'est, je ne sais pas si c'est particulier de la radio, mais peut-être c'est particulier des Italiens. Alors, encore une fois, hein, on croise les deux niveaux, on n'est pas toujours capable de cacher nos émotions.
Et pourquoi les cacher? Pourquoi la cacher d'ailleurs? L'émotion et les émotions.
Je sais pas. Moi, je suis comme vous. Quand j'étais à l'antenne quand Benedetto XVI m'a annoncé ses démissions. Hein, c'est quelque chose d'incroyable, les démissions d'un pape. C'est presque un jeu. Ah, tu es à l'antenne, il va y avoir les démissions d'un. Ben, j'étais à l'antenne. Et j'avais la voix un peu qui tremblait, je dois dire la vérité.
Alors vous êtes, Ilaria Sottis, vous travaillez, on l'a dit, sur Radio Uno. Je vous passais un extrait de Radio Tre. Je ne sais pas si vous avez travaillé sur Radio Tre.
Non, mais on est bons copains.
Bon, j'espère bien. C'est la RAI, de toute manière. Ouais, c'est
absolument.
La RAI qui nous accueille pour cette nuit italienne.
Absolument.
Et alors là, vous allez comprendre que c'est un trait pour ramener à la France. Écoutez.
I singolari avvenimenti che danno materia a questa cronaca si sono verificati nel 1940 a Orano. Per opinione generale, essi furono tutt'altro che in armonia col luogo, uscendo un po' dall'ordinario. A prima vista, infatti, Orano è una città ordinaria, null'altro che una prefettura francese della costa algerina. La città in se stessa bisogna ricordare.
Alors c'est une lecture en italien de La Peste de Camus. Vous aviez reconnu Ilaria Sottis, même si vous n'écoutez pas Radio 3.
Non mais j'écoute Radio 3,
ah bon.
Hein, absolument. Chers amis de Radio 3, je vous écoute. Ils sont tous là à l'écoute et bon, demain ils vont m'appeler, demain matin ils vont m'appeler. Non, oui, j'ai reconnu et c'était une très belle voix, n'est-ce pas Philippe,
hein? Oui, très belle voix, toujours. Et avec donc là aussi, la RAI s'intéresse à la littérature, à la littérature italienne, bien entendu, mais aussi aux littératures européennes, quoi. Enfin, comme nous faisons nous à France Culture.
Oui, il y a des émissions aussi aujourd'hui qui sur Radio Télé qui sont extraordinaires, qui font des chiffres de podcasts incroyables. Par exemple, une émission qui s'appelle Ad Alta Voce, où un peu comme ça sur les lectures des livres principaux, pas seulement italiens, qui sont confiés à des grandes voix, à des grands acteurs ou actrices. Et là, c'est beau parce que c'est aussi une idée du service public, c'est-à-dire, et tout ça c'est gratuit naturellement. Tu peux aller sur le site de Radio Télé, prendre ton podcast de Ad Alta Voce, et c'est magnifique. Et tu ne dois pas acheter. Hein. Mmh. Ça, c'est une idée du service public qui est pas mal, je trouve.
Évidemment. De même que les auditeurs de France Culture peuvent télécharger, podcaster donc, toutes les émissions de cette nuit et votre entretien, d'autres entretiens. Ilaria Sottis, vous qui travaillez sur la RAI Uno, à l'émission c'est Viva Voce, 15h30, 17h. Cette nuit italienne elle sera transalpine, quoi qu'il arrive, toute la nuit. Et puis au milieu de la nuit, après quelques archives, comme ça, on va recevoir donc Alexandre Grandazzi pour son livre « Oups » sur l'histoire de Rome. On se retrouve en fin de nuit, Ilaria Sottis.
Merci bien.